Vous écoutez Erdiwa sur la fréquence 107.5 ou sur www.rdwa.fr. Plantu et compagnie. Une émission qui permet de découvrir ou redécouvrir chaque semaine une plante de nos contrées que l'on peut cueillir, manger ou transformer. Bonne écoute.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone.
Bonjour à toutes et à tous. L'hiver arrive à grands pas. Cette semaine, le temps s'est fait plus blanc, plus dense, il appelle la neige et probablement l'hibernation qui va avec. Les fruits se font plus rares, les plantes à récolter aussi. Mais ce serait une illusion de croire que l'on ne peut plus rien faire avec ce que l'on trouve dehors. Place aux racines, au bois et au feuillage persistant. Aujourd'hui, je vais vous parler du lierre grimpant. On ne peut pas le manger, mais on peut l'utiliser pour diverses préparations. J'imagine que vous voyez toutes et tous plus ou moins à quoi ressemble le lierre grimpant. Il est cette plante aux airs gras qui grimpe le long des vieux murs et des arbres en forêt, et semblable à un vêtement végétal, les recouvre presque dans leur totalité. Le lierre grimpant, Hedera helix, de la famille des araliacées, est aussi appelé lierre des poètes, lierre des arbres, herbe au corps, herbe à dents, etc. Son nom scientifique, Hedera helix, est d'origine latine. Hedera vient du verbe s'attacher et helix du mot s'enrouler. Le lierre est une liane arborescente, c'est-à-dire que c'est une plante grimpante dont la tige souple va lui permettre d'utiliser des supports verticaux pour aller chercher en hauteur les rayons du soleil. Elle va donc s'entortiller, se cramponner, s'attacher aux arbres et autres. Ainsi, j'ai pu lire que le lierre peut atteindre 100 mètres de long lorsqu'il rampe et aller jusqu'à 30 mètres de hauteur. Il est donc littéralement immense. Les rameaux de sa base sont feuillus, ce ne sont que les rameaux supérieurs qui portent les fleurs. On remarque donc deux types de feuilles différentes en fonction de si elles se trouvent sur les rameaux stériles ou les rameaux florifères. On appelle hétérophyllie la disposition d'une plante à présenter des compositions foliaires différentes. Les feuilles collinaires, c'est-à-dire qui sont relatives aux tiges du lierre stérile, sont palminervées. Les feuilles sont palmées, découpées en 3 à 5 lobes. Elles font légèrement penser aux feuilles d'érable ou à la forme d'une étoile. Les nervures blanches contrastent le vert sombre et luisant des feuilles. À l'inverse, les feuilles des tiges florifères sont ovales et pointues et apparaissent près des ombelles de fleurs. Les fleurs, elles, se présentent en bouquets globuleux. Jaune verdâtre, les pétales se comptent au nombre de 5. La floraison se fait au mois de septembre et d'octobre, tandis que la fructification a lieu en fin d'hiver et au début du printemps. Les fruits sont de petites baies qui se présentent vertes. Elles virent progressivement au rougeâtre, puis leur pigmentation va devenir bleu-noir au premier mois de l'année. Très mellifères, les abeilles et les insectes peuvent apprécier les fleurs de lierre qui font partie des dernières à leur proposer du pollen. Il existe même une petite abeille, nommée Colletes hederae, la Colette du lierre, dont le cycle de vie se juxtapose à celui de la floraison de cette plante. Elle se nourrit principalement à partir de celle-ci. Sur Wikipédia, je peux lire. Ses larves sont nourries uniquement à partir d'une bouillie de nectar et de pollen provenant du lierre. Le lierre joue donc un rôle très important pour la petite faune. Ils sont très nombreux, les insectes, à trouver le gîte et le couvert dans une plante de lierre. Alors que le climat se fait plus rude, il agit merveilleusement. Les fruits toxiques ne sont pas assimilables par tout le monde. Certains oiseaux, cependant, aiment à en grignoter lorsque la période est au froid et que la nourriture manque. Très riches en lipides, ils sont une source d'énergie sans égale en période hivernale. Ce sont surtout les passereaux, les mésanges, les rouges-gorges, les geais, les merles et autres, qui vont consommer les baies de lierre et ainsi le disséminer. Les fruits peuvent aussi être consommés par de petits mammifères tels que le renard ou le lairot, et les feuilles par les chamois et les chevreuils. Le lierre se présente donc comme une plante essentielle dans le cycle de vie de certains animaux, notamment des oiseaux qui en tirent un très grand bénéfice. Pour l'humain, l'ingestion de quelques baies provoque hypersalivation, diarrhée, vomissement et à forte dose, les effets sont davantage prégnants, céphalées, convulsions, dépression respiratoire, menant au coma et à la mort. Morale de l'histoire, ne mangez surtout pas ces petites boules noires, même si vous voyez les oiseaux le faire. Le lierre est originaire d'Europe, d'Asie occidentale et d'Afrique du Nord. Elle est la seule plante de la famille tropicale des araliacées dans l'hémisphère nord et qui peut assumer des températures hivernales allant jusqu'à moins 25 par exemple. Certains soupçonnent qu'un ancêtre très lointain de Hedera helix serait un cousin des lianes des forêts tropicales. C'est par le biais de cet ancêtre que l'on pourrait expliquer le phénomène suivant lequel le lierre se multiplie avec beaucoup de rapidité lorsque le climat se montre chaud et humide. Mais aussi cela permettrait de comprendre la phénologie du lierre qui fructifie en hiver à l'inverse des plantes des zones tempérées de l'hémisphère nord. Cela rappellerait son origine lointaine, celle d'une plante vivant à des latitudes sans hiver. Le lierre est une plante qui se développe lentement mais qui perdure dans le temps. Elle est assez solide et résistante. Il s'avère qu'un individu peut vivre une centaine d'années et que certains se sont épanouis pendant plus de 1000 ans. Je trouve cette information déroutante. Ainsi, le lierre est une plante de savoir comme le sont les grands arbres. Lorsque la graine est en contact avec un substrat adéquat, elle va commencer à germer et apparaître sous forme de plantules après 2 à 3 semaines. La croissance du lierre se fait en quelque sorte en 2 temps. La première étape correspond à une phase chiaphile où la plante va chercher en sous-bois l'ombre pour croître. La jeune plante s'étend alors au sol pendant une période allant de la première année jusqu'à une dizaine d'années si nécessaire, période durant laquelle les tiges sont dites radicantes, c'est-à-dire qu'en rampant, elle va développer un ensemble de rameaux et de racines adventices, lui permettant de s'étendre sur le territoire qu'elle choisit en créant un réseau dense et feuillu. Ce cheminement vers l'ombre amène la plante à se recueillir sous les arbres, et c'est lorsqu'elle a trouvé l'arbre ou le support avec lequel elle va s'allier qu'elle va entrer dans une seconde phase, dite héliophile. Elle s'élance donc à la conquête de la canopée en entamant une course vers la lumière qui va prendre elle aussi des années. C'est ainsi que la plante va pouvoir se reproduire et fructifier. Pendant longtemps, on a considéré le lierre comme une liane nocive, comme un parasite étouffant l'arbre et ruinant les murs en pierre. Je vous annonce aujourd'hui que cette image sombre n'est pas réelle. Le lierre, c'est un vert intense, celui de la vie. Ce sont ses racines utilisées comme des crampons qui vont lui permettre de grimper aux arbres. De petites radicelles vont se développer et sécréter une colle qui va permettre à la plante de se pérenniser sur son support et de s'y ancrer solidement à ses aises. C'est à travers ses propres racines, plongées dans la terre, que le lierre se charge en nutriments. Exempte de suçoir, il va donc laisser l'arbre se développer complètement et ne limitera pas sa croissance. On parle donc de mutualisme. L'arbre, ou même un support inerte, peut recevoir de l'aide de la part du lierre, tout autant que celui-ci en reçoit pour s'étendre vers le ciel. Il est passionnant d'étudier comment s'organisent ensemble les êtres vivants, de se rendre compte que chaque élément, chaque plante, les géantes comme les toutes petites, servent à un équilibre, s'assemblent par affinité et échangent. Le lierre n'est pas nocif, au contraire. Il permet de développer une faune variée qui va trouver en ses rameaux et ses feuilles un refuge précieux et une réserve en nourriture. Il est par exemple le lieu de vie du papillon citron, le Gonopteris rami qui y hiberne. Il va faire office de couverture pour l'arbre en le protégeant des variations de température et de certains animaux. Je peux lire encore une fois sur Wikipédia la phrase suivante. Le lierre absorbe l'excès d'humidité et a une action chimique inhibitrice sur les champignons, bactéries ou parasites pouvant s'attaquer à un arbre. En quelque sorte, il le protège. Également, le lierre permet un apport nutritif pour le sol autour de l'arbre qui l'accueille, qui n'est pas négligeable. Alors que c'est le printemps et que plus personne sauf lui ne perd ses feuilles, il crée tout un petit tapis précieux autour du tronc. En effet, bien que ses feuilles sont persistantes, il en perd à peu près tous les 3 ans. C'est ainsi qu'il peut se régénérer. Il est vrai, cependant, chose que l'on répète souvent pour l'accuser, que le lierre a tendance à affaiblir les murs en pierre, qui sont déjà en mauvaise condition. Mais j'ai appris qu'un lierre qui pousse le long d'un mur sain n'a aucun effet négatif sur celui-ci. Il ne fait que le protéger et servir de lieu d'accueil. Il est donc important, plutôt que de tenter de le réduire en poussière, d'essayer de l'accompagner au long de sa vie en lui montrant le chemin quand il y en a à éviter. On peut par exemple poser une treille pour l'inviter à se diriger vers celle-ci. Il existe un tas de petites techniques qui nous permettraient de vivre ensemble sans nous déranger. Et puis pour ceux qui ne préfèrent pas intervenir, laissez-le vivre sa vie tranquille, il n'en sera probablement que plus heureux.
Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Laissez-moi, laissez-moi tranquille, laissez-moi.
J'ai un autre argument pour vous convaincre, vous qui n'êtes peut-être pas encore convaincu. Cette plante a une incroyable capacité à purifier l'air en assimilant de petites particules cancérigènes telles que le benzène et plus rarement le trichorétylène. Comme les arbres, il crée de l'oxygène et assainit l'air qu'il absorbe. Plus les murs seraient couverts d'un vêtement végétal dense, plus nous pourrions endiguer un certain nombre de phénomènes dus au changement climatique. Ainsi, il est important pour l'avenir de changer notre regard sur cette plante, je dirais même sur les plantes, qui sont en fin de compte nos plus fidèles amis. Lierre, que tu revêts de grâces bucoliques, les ruines de monuments, et tu me plais encore sur le platane antique qu'étouffe tes embrassements. Mais je t'aime, surtout sombre et sinistre lierre, à quelques fontaines pendues, et laissant l'eau couler, plaintive, dans la pierre, d'un bassin que l'âge a fendu. Jean Moréas.
Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne. Fleur de lys ou fleur d'oranger.
Le lierre, vert et résistant tout au long de l'année, est signe de longévité. Il est un symbole d'immortalité, et ce n'est pas uniquement dû à ses bienfaits thérapeutiques, mais aussi à sa forme incroyable, son entortillement perpétuel et sa longue vie. Sa grande mutualité avec l'arbre qui sera son hôte prend la forme physique d'une amitié profonde. Le lierre embrasse l'arbre. En question d'amour, il est un bienfaiteur. Immortalité et attachement du lierre en fait le roi de l'amour constant. Ainsi les druides l'utilisaient quelquefois lors de mariages en nouant d'une liane les poignets des amoureux pour leur assurer une existence d'amour pérenne. Il était considéré comme pris d'une force vitale et d'une énergie remarquable. Si la magie vous passionne, le lierre est sans nul doute une plante mystique.
Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison.
Dans la partie herboristerie du site reconstitutionromaine.com, un long article est consacré au lierre. La personne qui l'a réalisé liste les personnages mythiques liés à cette plante. J'ai retenu quelques éléments. Ils sont les suivants. Le lierre serait la plante de la muse Thalie, divinité champêtre présidant au banquet, muse de la comédie. Elle est représentée comme une jeune femme couronnée de lierre tenant dans une main un pedum rustique, bâton en forme de crosse en bois de lierre qui constituait l'attribut des divinités sauvages et champêtres, et de l'autre main un masque de théâtre. D'après la légende, lierre, jeune danseur du dieu Bacchus, dansa si longtemps qu'il s'écroula par terre. Pour lui rendre grâce, le dieu l'enlaça d'une liane de lierre qui le souleva et le remit en forme. Elle est la plante de Dionysos, le dieu grec, et de Bacchus, romain. Le lierre est avec la vigne l'un des attributs de Bacchus et de ses suivantes, les Ménades. Ovide raconte que juste après sa naissance, Bacchus fut confié aux nymphes de Nyssa, qui dissimulèrent son berceau en le recouvrant de lierre pour le soustraire à la colère de Junon. En effet, l'enfant était né de l'union clandestine de Zeus et Ménélée. Dieu de la végétation, de la vigne et de l'ivresse, il porte souvent une couronne de lierre dans les représentations. Son culte est centré sur la liberté, l'extase par la joie, mais aussi sur la brutalité sauvage, effet du vin.
Le canon, faut comprendre aussi que c'est pas seulement du pinard, mais que c'est de l'amitié.
Que buviez-vous quotidiennement?
Je sais pas moi, 5-6 litres, comme le Bombay.
Et maintenant, vous avez la tête lourde et la langue chargée. Et vous vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire. Eh bien, il y a d'abord des petits remèdes qui ne valent à rien. Le jus de choucroute, le cresson écrasé, passons dessus. Est-ce que le médicament classique...
Bacchus utilise le diadème de lierre pour soulager ses douleurs de tête lorsqu'il avait trop bu, ainsi que le jus des baies et de la plante pour prévenir l'ivresse. Le culte de Dionysos et Bacchus reste indissociable des ménades grecques et des bacchantes romaines. Accompagnatrices du dieu, ce sont des femmes rendues délirantes par le vin. Portant des couronnes de lierre et agitant les tirses, elles se précipitent à travers les bois, les montagnes et collines. Elles n'avaient pas de temple et les forêts denses étaient leur domaine. Là, Dionysos les abreuvait du lait des chèvres sauvages, d'herbes et de baies. Suivant en procession le dieu, elles jouaient du tambourin et de la flûte. Leur mois de prédilection était le mois de septembre, mois des vendanges. Les ménades consommaient du vin, mais aussi de la bière, additionnée de baies de lierre toxiques mais psychodysleptiques à faible dose, ainsi que des champignons hallucinogènes, comme la manite tumouche. Elles personnifient les esprits orgiaques de la nature, pouvant passer de chants de joie aux délires les plus violents, à la brutalité sauvage. Invite au dialogue avec les fées, porte chance, permet de voir l'avenir, d'éloigner le mauvais sort. Bref, le lierre est au centre de tout un ensemble de pratiques mystiques et de légendes. Je vous invite à vous renseigner davantage si ça vous intéresse. Il semblerait que l'utilisation du lierre pour ses vertus médicinales remonte à un temps qu'il est difficile d'imaginer. Les premières traces écrites de son usage nous viennent des Grecs. Dioscoride en faisait un remède pour toutes sortes de maladies, notamment la dysenterie, les affections de la rate, les ulcères, les otites ou rages de dents. Pour soulager douleur et contraction des muscles, les druides préparaient des liquides à base de lierre. Léonard de Vinci, au XVe siècle, faisait mention d'une observation. D'après lui, les sangliers blessés ont la coutume de se rouler sur le lierre, probablement en connaissance de son action cicatrisante. Au cours de l'histoire, on lui a accordé également une action sur la jaunisse, l'insomnie, la surdité, les troubles de la vue, les maux de tête, les irrégularités du cycle menstruel. De toutes ces indications, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que bien qu'il ait 1000 vertus, il est préférable de l'appliquer par voie externe. L'ingestion par voie interne est malheureusement dangereuse ou réservée à des personnes conscientes et savantes de la toxicité de la plante et des limites à ne pas dépasser. Maurice Mességuet, dans Mon herbier de santé, nous fait part de son savoir autour du lierre. Il écrit... Employé à l'extérieur et uniquement à l'extérieur, le lierre peut devenir l'un de vos meilleurs remèdes. Il est légèrement excitant, il fait tomber la fièvre et active la production de sueur. Il régularise le cycle des femmes. Il est résolutif, c'est-à-dire qu'il a la propriété de ramener les tissus lésés à leur état normal, en cas d'ulcère, de gonflement, de tuméfaction, etc. Je l'ai employé avec succès contre des brûlures assez graves. Le lierre est en outre un bon anti-rhumatimal et le meilleur calmant de la douleur que l'on puisse trouver à deux pas de sa maison, voire sur son balcon. À l'heure où l'on dénonce les dangers des médicaments chimiques contre la douleur, les analgésiques, il est bon de songer à nouveau aux analgésiques que la nature nous offre gratuitement. Utilisez les emplâtres, les cataplasmes, les gargarismes, les bains de lierre chaque fois qu'il s'agit de soigner la douleur, depuis les maux de dents et d'oreilles jusqu'aux crises de gouttes. Il précise également que le lierre est un ami de l'estomac et du système digestif, un bon diurétique et un ennemi des graisses et de la cellulite qu'il fait fondre tout en empêchant les douleurs des plaques qu'elle cause. Le lierre a donc une forte action sur la douleur, les névralgies et contre les congestions. La récolte des feuilles de lierre, ne touchez surtout pas aux fruits, se fait au fur et à mesure de vos besoins. Il est conseillé de les consommer fraîches, infusées dans de l'eau ou en décoction, en compresse et en cataplasme. Mességuier propose de mélanger un quart de feuilles de lierre hachées et de la farine de lin ou d'appliquer directement une bouillie de feuilles fraîches pour soulager la douleur et les rhumatismes. Dans le cas de rage de dents et de caries, il faut faire un gargarisme de lierre à raison de 4 à 5 pincées de feuilles fraîches par litre d'eau salée. L'ultime passage sur le lierre dans ce précieux livre nous donne une information importante à mes yeux. Le lierre peut être utilisé pour soigner la gale. Il suffit de faire macérer dans un litre de vinaigre de vin une poignée de feuilles de lierre et de l'appliquer. Filtrer et étendu d'un peu d'eau tous les jours, matin et soir, pendant une semaine, en compresse sur les régions lésées. Pour les fans de produits ménagers faits maison, il existe aussi la célèbre potion pour laver le linge à base de lierre, mis en décoction 10 minutes et en macération dans de l'eau pendant 24 heures. Il ravive la couleur des tissus délavés. Je vous laisse le soin de chercher une recette plus précise. Si vous avez un lierre sur le mur de votre maison ou dans votre quartier, saluez-le quand vous partez le matin. Sinon, rendez-lui visite en forêt.
Au revoir.